Bien, donc on va reprendre pour se mettre dedans. On va commencer par se concentrer sur la respiration. Puis on fera une. Ouais. On continuera par une méditation sur l'impermanence. Donc asseyez-vous confortablement, le dos droit, mais le corps détendu. Laissez votre esprit se reposer dans le moment présent. Ne pensez pas au passé ni au futur. Pas de projet, pas de souvenir. Restez concentré sur le présent. Laissez passer les pensées. Une fois que votre esprit est calmé et établi dans le présent, essayez de générer une motivation positive. Vous pouvez par exemple penser, cet après-midi, contribuer à apporter plus de paix et de bonheur à tous les êtres. Ou puisse cette méditation et cette étude être des causes pour que j'atteigne l'éveil afin d'être en mesure d'aider tous les êtres à se libérer de la souffrance et de s'éveiller à leur tour. Puis comme ce matin, prenez conscience de tout ce qui se passe dans votre corps, tout ce qui change à chaque instant, dans votre corps et dans votre esprit. Vous pouvez commencer par la respiration. Ensuite, vous pouvez passer en revue toutes les parties de votre corps où vous avez des sensations agréables, désagréables, neutres. Vous pouvez penser à toutes ces particules, toutes ces molécules qui sont en mouvement perpétuel dans votre corps, à chaque instant, que ça bouillonne. Ensuite, vous portez votre attention sur votre esprit, composé aussi de nombreuses parties. Regardez toutes les expériences mentales qui s'élèvent. Ne vous accrochez à rien. Ne jugez pas, ne faites pas de commentaires, observez simplement et tâchez d'avoir ce sentiment d'impermanence, de nature toujours changeante de votre esprit. Si vous ressentez des peurs par rapport à l'avenir, des incertitudes, observez-les simplement, sans les développer, comme des simples pensées vides. Qui apparaissent, qui restent un instant et qui cessent. Donc, après avoir médité sur l'impermanence de votre monde intérieur, votre corps et votre esprit, élargissez votre attention vers le monde extérieur. Pensez à votre environnement immédiat, le coussin sur lequel vous êtes assis. Le tapis sur lequel il repose, le sol, les murs, les fenêtres, le plafond de la pièce. Tous les objets qui se trouvent sur les murs. Et pensez que toutes ces choses qui ont l'air solides et statiques sont en fait un amas d'infimes particules qui se déplace à toute allure dans l'espace. Essayez de rester dans cette conscience de l'impermanence, de la nature des choses, en constant changement. Pensez à tous les gens qui sont dans cette pièce, que leur corps et leur esprit changent aussi, sans cesse, qu'ils ne demeurent jamais identiques, pas même le temps d'un instant. Et c'est pareil à l'extérieur de la pièce. Tous les êtres vivants qui sont autour du château, les animaux, les oiseaux, les insectes, donc, tous ces phénomènes sont composés d'atomes, de minuscules particules, en constant changement, à chaque moment, chaque milliseconde. Et que rien ne demeure identique. Une fois que vous ressentez cela, que vous faites cette expérience de l'impermanence, du changement qui est dans la nature des choses, vous restez concentré. Vous ne pensez plus, vous n'analysez plus, et vous gardez fermement votre attention sur ce sentiment d'impermanence, aussi longtemps que possible. Bon, je vous raconte une histoire. C'est l'histoire de une histoire bouddhiste indienne. Au temps du Bouddha, donc il y avait une dame qui s'appelait Gotami, donc qui vivait dans là où le Bouddha faisait sa retraite chaque été, sa retraite d'été. Et Gotami, donc, c'était une jeune femme d'apparence très laide. Et elle ne trouvait pas de mari. Elle était si laide que personne ne la voulait. Elle s'est dit tant pis. Enfin, elle se disait pas tant pis, elle était vraiment désespérée de ne pouvoir jamais trouver un mari. Puis un jour, quelqu'un a vu sa beauté intérieure. Donc un marchand extrêmement riche l'a épousée. Donc elle était ravie. Le problème, c'est que la famille du mari ne l'acceptait pas vraiment parce que elle n'avait pas de. Il fallait qu'elle donne un fils à son mari, quoi. Elle n'arrivait pas. Puis un jour, finalement, elle a eu un enfant, et cet enfant, c'est un fils. Donc elle était très 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 contente, et tout allait bien avec la famille, avec le mari, formidable. Seulement, malheureusement, l'enfant est devenu malade et mourut. Alors là, Gotami était inconsolable. Inconsolable. Au point de devenir carrément folle. Et elle s'est mise à déambuler de maison en maison, avec son enfant mort dans les bras, en demandant, en implorant les gens de lui donner un médicament qui pourrait ranimer ou soigner, parce qu'elle n'arrivait pas encore, elle ne pouvait pas réaliser que son enfant était mort. Donc pour elle, il était malade et simplement malade. Il fallait trouver un médicament pour le ranimer. Mais partout où elle allait, dans toutes les maisons où elle allait, tout le monde voyait bien que l'enfant était mort, sauf elle. Et un jour, comme ça, dans une maison, elle a rencontré quelqu'un qui a compris en fait ce qui se passait et qui lui a dit d'aller voir le Bouddha, que le Bouddha était le médecin le plus qualifié qui existe. Et qu'il pourrait certainement lui donner un médicament, lui donner un remède pour soigner son enfant. Donc elle est allée voir le Bouddha. Le Bouddha a vu donc ce qui se passait. Il lui dit oui, il y a effectivement un médicament qui pourrait soigner ton enfant. Seulement ce médicament, il faut que tu le trouves toi-même. Je ne peux pas te le donner. Il faut que tu ailles partout. Il faut que tu le trouves. Elle a demandé au Bouddha, mais qu'est-ce que c'est ce médicament? Et Bouddha lui a dit, oh, c'est simple, c'est simplement, c'est des graines de moutarde, en fait. Des graines de colza ou de moutarde, je ne sais plus, des graines de colza. Il lui dit, mais en fait, il n'en faut pas beaucoup, il en faut juste deux ou trois. Seulement, il faut que ça vienne d'un endroit, d'une maison, il faut que tu la trouves dans une maison où personne n'est jamais mort. Donc, Gotami. Partie à la recherche de ces graines de moutarde. La première maison dans laquelle elle rentre, elle demande à la personne, est-ce que je peux avoir des graines de moutarde? Mais bien sûr, je vais vous en donner, combien il vous en faut? Elle dit, ah mais attendez, il faut que je vous pose une question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort dans cette maison? La personne dit, bah oui, évidemment, quelqu'un qui est mort ici. Ah ben, je peux pas accepter je peux pas accepter les graines. Donc elle a continué comme ça, de maison en maison. Et partout où elle allait, il y avait toujours eu un décès, un mort, quelqu'un qui était soit un enfant, soit un parent, soit un grand-parent. Et en fait, quelqu'un lui dit, mais tu ne trouveras pas une maison où il n'y a pas eu de mort, parce en fait, il y a plus de morts que de vivants, si on regarde bien. Donc finalement, elle a compris que la mort donc était le lot de tout le monde et qu'elle n'était pas la seule hein, dans cette perte, que ce n'était pas quelque chose qui n'arrivait qu'à elle, et que cette expérience, tout le monde la faisait. Et ainsi, donc, elle a pu comprendre ce que c'était que l'impermanence, ou l'inéluctabilité de la mort. Donc, son obsession de vouloir soigner son enfant est partie, hein, a disparu. Elle est revenue à la réalité. Donc, elle a enterré son enfant. Elle est retournée voir le Bouddha et qui lui a demandé: alors, tu as trouvé mes graines de moutarde? Elle a dit: oh non, maintenant, j'ai compris, je ne cherche plus ces graines de moutarde. Seulement, accordez-moi le refuge, je veux devenir bouddhiste. Donc, ensuite, elle est devenue nonne, etc. Et elle s'est libérée de l'existence du samsara, dit l'histoire. Donc, comme Gotami, nous devons vaincre cette peur de la mort, en fait, c'est ce que nous montre cette histoire, et nous devons accepter la mort comme une partie naturelle de notre vie et apprendre à vivre avec. Pour comprendre la mort, nous dit le Bouddha, il faut déjà comprendre. La chose la plus importante pour comprendre la mort, c'est de comprendre la nature de notre esprit. Comment notre esprit fonctionne. Et c'est un peu la clé, hein, dans ce domaine-là. À partir du moment où on comprend le fonctionnement de l'esprit. Donc, dans le bouddhisme, on dit que la vie commence au moment où l'esprit et le corps sont conçus, hein, au moment de la conception. C'est le point initial, hein, de la vie, quand l'ovule et le sperme donc se rencontrent et que la conscience donc entre dans ces deux produits, hein, alors que le père et la mère donnent le corps, hein, la conscience, donc les investit et donne naissance. Donc la question qui se pose, c'est d'où vient cette conscience, d'où vient cet esprit? Est-ce qu'il a un début, est-ce qu'il y a un commencement ou pas? Alors, pour étudier l'esprit, en fait, comme on l'a vu déjà dans le premier module, mais je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, forcément, il y a plusieurs niveaux, hein, de l'esprit. Il y a les niveaux grossiers, comme on en a parlé, c'est-à-dire les niveaux grossiers, c'est les cinq consciences sensorielles, hein, la conscience visuelle, la conscience auditive, olfactive, conscience gustative et conscience tactile. Et chacune de ces consciences individuelles donc a des sphères d'activité qui sont donc pour la conscience visuelle les couleurs et les formes, pour la conscience auditive les sons, pour la conscience olfactive les odeurs, pour la conscience gustative les goûts, les saveurs, et pour la conscience tactile toutes les expériences tactiles du toucher. C'est très important, ça. Parce que c'est comme ça que se constitue la conscience. Et au moment de la mort, ces consciences grossières se dissolvent graduellement. C'est le même processus, hein, qui se met en place dans le sens inverse, hein, au moment de la naissance. Donc la constitution de ces consciences grossières va s'inverser au moment de la mort. Et c'est ce qui disparaît, c'est ce qui se résorbe. À un niveau plus subtil, donc il y a la conscience mentale, hein. Et donc après, on dit que la conscience mentale, elle est. Qu'est-ce que c'est que la conscience mentale, en fait? D'après le bouddhisme, la conscience mentale, c'est comment dire? C'est un ensemble de 80 conceptions, concepts, conceptions, qui sont liés à des souffles, des vents, des énergies, autrement dit. Et là, il y a trois niveaux. Il y a les énergies, il y a pareil, un niveau grossier, un niveau subtil et un niveau très subtil. Alors, pour vous donner, si vous voulez, la liste, c'est très très bien détaillé hein, dans les enseignements bouddhistes de tous ces différents niveaux. Donc, les 80 conceptions mentales chevauchent donc des souffles, des vents, qui sont forts, moyens ou faibles. Donc, il y a 33 conceptions, 33 expériences conceptuelles qui sont liées à des vents forts, 40 qui sont liées à des vents moyens, et 7 qui sont liées oui, ça fait 80, qui sont liées à des vents faibles. Ça, c'est les consciences grossières. Et au moment de la mort, c'est les consciences qui commencent. C'est pas, c'est que c'est ces consciences qui se commencent à se résorber. D'abord, donc, les vents faibles, d'abord les vents forts, les vents moyens et les vents faibles. Ensuite, on arrive à un niveau plus subtil où il y a des consciences, la conscience plus subtile qui se résorbe et qui donne lieu à différentes visions, hein. Une vision blanche, une vision rouge et une vision noire. Et enfin, il y a le niveau très subtil, qui est une expérience de clair-lumière qui arrive à ce moment-là. Et donc ça, c'est le niveau le plus subtil de la conscience dont on fait l'expérience au moment de la mort. Donc, qu'est-ce qui se passe après la mort? Hein? Après, donc, il y a tout un processus qui se met en place avec un état intermédiaire. Et donc, on en parlera un peu plus demain hein, de ça. C'est simplement pour vous donner une vision d'ensemble de tout de l'enseignement bouddhiste qui concerne la mort et la renaissance. Dans le premier enseignement qu'on a vu sur le premier module, donc, on a vu que l'esprit. On a dit que l'esprit était sans commencement et qu'il n'avait pas de fin non plus. Que c'est simplement un courant continu de changement et qui passe comme ça de vie en vie. Et même lorsqu'on atteint le nirvana ou lorsqu'on a atteint l'éveil, la conscience hein, ne s'arrête pas pour autant. Ça continue. Donc on peut parler d'une continuité. Mental, en fait. Donc, si je parle de ça, c'est par rapport à une question que j'avais, ou des questions que j'ai eues tout à l'heure, sur le fait que dans l'enseignement bouddhiste, la mort et l'impermanence touchent essentiellement la réincarnation. Et que pour nous, occidentaux, le concept de réincarnation est un peu loin, un peu éloigné. Ça n'est pas partie de notre vécu, et c'est quelque chose que l'on croit plus ou moins, ou auquel on adhère parfois avec difficulté. Donc il s'agit, c'est ce qui est intéressant, c'est d'arriver à essayer à réfléchir hein, pour vraiment prendre conscience de la mort et de l'impermanence, il faut réfléchir sur le processus de réincarnation. Comment est-ce qu'on peut prouver la réincarnation? Ça, c'est très très intéressant. Comment faire? Est-ce qu'on doit l'accepter comme ça, comme on accepte n'importe quoi, sans la mettre en doute, ou au contraire, faut-il la mettre en doute? Eh bien, je pense qu'il y a une part de scepticisme qui est toujours saine. Il faut toujours se demander, jusqu'à un certain point, justement. Comment essayer de comprendre ou de se prouver, essayer de se prouver que la réincarnation existe vraiment. Donc, comment faire? Donc ça nous amène à la théorie de la connaissance, en fait, dans le bouddhisme. Qu'est-ce qui fait comment peut-on connaître les choses? Quels sont les critères valides de connaissance? Donc dans le bouddhisme, on parle de trois critères de connaissance, pour savoir si une chose est vraie hein, ou pas. Parce que c'est ça qu'on veut savoir, en fait, hein, dans la réincarnation et dans tout le reste. Hein. Comment savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai? Mais alors, il faut jouer le jeu. Hein. C'est-à-dire, le doute, c'est bien, mais il faut que ce doute soit productif. C'est-à-dire, il faut qu'il nous amène à une certitude. Si on entretient des doutes comme ça pour le plaisir d'entretenir des doutes, ça sert absolument à rien. C'est encore le samsara. Hein. On tourne encore dans la cage et on n'en sort pas. C'est une espèce de jeu mental qui est assez improductif finalement. Donc ce qu'on cherche à avoir dans le doute, ce qu'on appelle le doute positif, c'est de que ce doute soit résolu, hein, qu'il nous amène à une certitude. C'est-à-dire qu'on n'ait plus de doute, quoi, finalement. Que le doute soit éliminé. Donc, comment fait-on pour éliminer ces doutes? Comment fait-on pour connaître la vérité d'une chose? Voilà. Donc, la meilleure. Donc, il y a trois manières. La meilleure, c'est la perception directe. Vous voyez directement la chose en face de vous, visible. Hein, vous la comprenez. Ce qu'on appelle une réalisation, hein, si vous voulez, où on comprend directement comment les choses existent. Comment on fait? Bah, la méditation. C'est l'outil principal, hein, qui permet cette expérience, qui amène une expérience personnelle. Et là, il n'y a plus de doute. Hein. Une fois que vous avez vu quelque chose, quand vous l'avez vu, vous l'avez vu. Vous ne pouvez plus l'oublier. Ça, c'est la meilleure des connaissances possibles que l'on puisse avoir. Et l'expérience qu'on appelle l'expérience directe. La deuxième expérience valide, juste, c'est l'expérience de quelqu'un d'autre. Seulement là, ce quelqu'un d'autre doit être une personne valide. Ça ne peut pas être un tel ou une telle qui sort de on ne sait pas d'où. Il faut qu'on ait déjà confiance dans dans la perception de cette personne, hein, dans son expérience à cette personne. Donc il nous faut une autorité en la matière qui soit digne de confiance. Quelqu'un qui fait autorité, comme on dit. Donc, dans le bouddhisme, la personne qui fait autorité, c'est le Bouddha. C'est l'enseignement du Bouddha. Hein? Si on se rend compte que les enseignements du Bouddha sont justes, que tous les enseignements du Bouddha que l'on analyse par rapport à son expérience sont porteurs de vérité, s'il y en a 99 qui sont vrais, il ne va pas y en avoir un centième qui est faux. Hein? C'est-à-dire, si le Bouddha enseigne la réincarnation, pourquoi est-ce qu'il mentirait, finalement? Hein? Si tous ces autres enseignements sont justes, pourquoi celui sur la réincarnation serait faux? Donc, voilà. Donc, la première perception directe, voir la réincarnation soi-même, est-ce que c'est possible ou pas? Je ne sais pas. Ça dépend de vous. Il y a des êtres évolués, des enfants ou autres, qui. Plus peut-être dans la culture asiatique que la nôtre, sont capables de se souvenir de leur vie antérieure. Il y a des témoignages. Il y a donc des êtres réalisés qui le sont aussi, hein, qui ont fait les expériences. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas cette expérience qu'il faut mettre en doute l'expérience des autres. C'est une manière un peu fermée et obtuse de réagir face à d'autres expériences. Et la troisième méthode, donc la première méthode, c'est l'expérience directe, vision directe, perception directe. La deuxième, c'est la perception d'un être valide, qui fait autorité, hein, ou une référence, on va dire, une référence valide. Et la troisième, c'est la déduction logique. C'est la logique. On peut prouver les choses par la logique. Si on ne peut pas les voir directement parce qu'on n'en a pas les capacités, si on connaît personne qui peut nous aiguiller et nous montrer la réalité, on peut, par sa propre réflexion, arriver à une conclusion, logique. Oui, il y avait une question.
Allô, oui. Hein? J'en ai deux, en fait, ouais.
Ah non, non. Tardé.
Donc la
première... laisser aux autres.
La première, c'est sur la première manière, donc la perception directe. Vous parliez de vue, en fait, de la vision. Alors, qu'est-ce qu'on entend par vision et par vue? Est-ce que c'est vraiment oui, c'est le sens ou est-ce que...
Non, non, enfin, oui, ça peut être n'importe... une vision mentale, on va dire. Ça, ça dépend de ce qu'on veut réaliser, hein.
Ce que je veux dire, c'est que parce que pour certains, enfin moi je pense à Saint Thomas qui disait, je crois que ce que je vois, mais si on s'arrête voir, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est juste simplement la vision par les yeux, ça peut être aussi par exemple ressentir. J'ai ressenti des choses corporelles, et donc là, on peut dire aussi, on peut utiliser, j'ai vu ça. Pour certains, ils vont, ça veut dire j'ai ressenti ça. C'est ça que je veux dire, en fait. Je ne sais pas si je suis clair. Non, j'ai pas l'impression. Et en fait, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot « vu » quoi.
Perception.
Voilà, perception. Donc, ça peut être différents canaux, quoi.
Perception mentale.
OK.
Ou perception visuelle. C'est ça que vous voulez dire, en fait?
Oui, si c'était arrêté à la simple, au simple canal de la vision, au simple sens de la vision, ou est-ce que ça pouvait être... Parce qu'en méditation, on peut ressentir des choses très profondes sans forcément voir de choses, quoi. C'est ce que je veux dire.
Mais disons qu'une vision ordinaire, une vision, perception visuelle sera peut-être plus ordinaire pour des choses extérieures, en tout cas, qu'une perception mentale qui permettra de voir des choses plus intérieures.
Ok. C'est tout. Ok, merci. Et la deuxième question, c'était par rapport à la troisième manière, la déduction logique. Parce que vraiment, c'est quelque chose qu'on peut définir comme un critère valide, sachant que, par exemple, la science utilise une technique de déduction logique et qu'on voit, en fait, tous les jours qu'elle peut trouver certaines vérités, mais il y a aussi plein d'autres vérités qui sont remises en cause, quoi.
Ça veut dire qu'elle n'est pas assez poussée. La déduction logique n'est pas assez poussée à ce moment-là.
D'accord, ok. Merci.
La déduction logique, justement, si elle n'arrive pas à une conclusion définitive, c'est qu'elle n'est pas encore assez, elle n'est pas encore assez aboutie. Bon, pour revenir sur le, sur ces différents points, sur la perception directe, bon, je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus tard de ça. C'est encore... Donc dans le bouddhisme, la réincarnation, donc c'est vu selon un principe de continuité, hein, puisque et donc c'est ça qui va nous amener. On va s'intéresser donc à la manière un peu déductive, hein, de voir les choses, puisque c'est ça qu'on peut développer le plus à notre niveau. Hein. Comment essayer de comprendre, hein, ça. Donc dans le bouddhisme, quand on parle donc de la mort, c'est naturellement, c'est qu'est-ce qui se passe, hein, qu'est-ce qui se passe après la mort. Et donc le bouddhisme dit que la mort, ce n'est pas la fin, hein, de qu'il n'y a plus rien, hein, on ne dit pas que tout s'arrête à la mort, hein, mais que l'esprit continue et il passe d'une vie à, il passe dans une autre vie. Alors, qu'est-ce qui continue? Qu'est-ce qui passe dans l'autre vie? D'une manière, c'est évident, c'est pas les éléments grossiers qui passent dans l'autre vie. C'est ce qu'on appelle la conscience la plus subtile, le niveau de conscience le plus subtil qui continue donc sous cette forme-là. Et c'est ça, donc, cette conscience la plus subtile qui, au moment de la conception, se fond justement dans l'amalgame du sperme et de l'ovule qui sont créés, qui donnent les constituants physiques de la nouvelle naissance, pour la nouvelle naissance. Et la conscience n'est simplement que la continuité des vies antérieures, sous sa forme la plus subtile, qui vient se greffer sur ces supports physiques. Donc la réincarnation est vue comme une continuité de conscience. Et c'est l'un des prémices, hein, en fait, du bouddhisme, hein, des enseignements du Bouddha sur la réincarnation. C'est-à-dire que pour qu'il y ait... pourquoi c'est une continuité, d'où vient cette continuité, en fait, quelle est la cause de cette continuité, on ne va pas la trouver dans un domaine matériel. Hein, puisque une conscience est immatérielle, ça ne peut pas être quelque chose... qui va donner lieu à cette conscience, ça ne va pas être quelque chose, de matériel, comme le corps physique, par exemple. Le corps physique, c'est simplement créé justement par des molécules, par des aspects physiques. Mais la conscience elle-même, qui est immatérielle, ne peut venir que de quelque chose d'immatériel. Et qu'est-ce que c'est cette chose immatérielle ? Eh bien, c'est l'instant de conscience précédent. Qu'est-ce qui a donné lieu à cet instant de conscience précédent ? Eh bien, c'est un instant de conscience encore précédent. Donc en termes de logique, de déduction logique, c'est comme ça qu'on arrive plus ou moins à intuiter ou à comprendre la réincarnation. Cette espèce d'enchaînement continu d'instants de conscience qui donne naissance à un instant postérieur à lui-même et ainsi de suite comme ça. Et que ça évolue depuis le passé au présent et jusque dans les vies futures. Donc c'est ça qui est le... Alors ça, est-ce qu'on peut le voir directement ? Apparemment, certains êtres dont par leur clairvoyance, hein, le fait de par la concentration, par la méditation, peuvent percevoir justement ces changements. Plus l'esprit est clair, hein, plus il est capable de voir ce qui se passe dans le passé et ce qui va se passer dans le futur. Donc ça veut dire que... et pourquoi il le perçoit ? Justement parce qu'il perçoit par ses instants de conscience. Il ne perçoit pas des choses matérielles, évidemment. Donc c'est une absorption méditative dans laquelle donc, on peut percevoir comment est la réalité, comment ça fonctionne. Et on peut voir donc, sans aucun doute, sans le moindre doute, qu'il y a eu d'autres vies avant celle-ci. Et qu'il y en aura d'autres aussi. Donc la raison pour laquelle si on ne perçoit pas ça, c'est que notre esprit n'a pas l'acuité mentale, la clarté mentale qui nous permet de percevoir avec justesse ce processus de réincarnation. Pourquoi ? Eh bien parce que notre esprit est voilé par toutes sortes, par l'agitation mentale, par les perturbations mentales, par le karma, par toutes sortes de facteurs. Et plus on médite, justement, plus l'esprit se calme, plus on élimine les facteurs perturbateurs, plus on est capable de voir la nature de l'esprit et voir la nature des phénomènes. Donc ce qui nous empêche, en fait, de voir, de percevoir ça, c'est simplement les pensées. Quelqu'un qui a réalisé le calme mental, qui a éliminé ses voiles, est capable de voir ce fonctionnement en fait de l'esprit. Hein, on peut imaginer ça, c'est assez logique. Hein. Imaginez que une étendue d'eau, quand il y a de l'orage par exemple sur un lac où tout est extrêmement agité où ça remue sans arrêt, on ne peut pas percevoir le fond. Hein. Il n'y a aucune clarté. Hein. L'eau est complètement boueuse, ça remue sans cesse. Au contraire, quand il n'y a plus de vent, quand le lac est étal, on peut percevoir très clairement ce qu'il y a au fond. Bon, dans l'esprit, on dit c'est exactement la même chose qui se passe. Quand les pensées s'apaisent, on peut voir exactement la nature de l'esprit. Donc les gens qui ont la chance d'avoir réalisé ça, donc d'avoir cette perception, peuvent voir à ce moment-là clairement, hein, comment... comment ce processus, hein, de réincarnation. Donc, ce que ça demande, surtout, c'est une concentration. Donc, ici, on ne parle pas de perception visuelle, hein, mais c'est la perception qui est liée à la concentration. C'est une expérience donc mentale, hein, de perception. Et pour pouvoir donc pour pouvoir la percevoir, c'est uniquement par la concentration et par l'effort, hein, par le fait de s'entraîner à la méditation en un seul point. Et donc plus on a cette concentration en un point, plus on est capable aussi de voir ce qui s'est passé dans nos vies antérieures. En fait, pour l'instant, on peut dire que c'est comme si on était un peu amnésique. On ne voit pas nos souvenirs, tout ça sont complètement voilés par justement les voiles que créent nos perturbations mentales. Mais quelqu'un qui n'a plus ses perturbations mentales, qui n'est plus voilé par ses pensées, peut voir en fait ce qui se passe. Peut avoir beaucoup plus de souvenirs, ce qu'on appelle la clairvoyance. Donc, dans l'enseignement du bouddhisme, donc pour méditer sur la mort et sur l'impermanence, il y a en fait cet enseignement, il se divise en quatre parties. Comme souvent, hein, dans le bouddhisme, il faut voir la première partie consiste à voir les avantages qu'il y a à méditer sur la mort et sur l'impermanence. La deuxième partie, c'est de voir les désavantages de ne pas avoir conscience donc de la mort et de la permanence. La troisième partie, c'est de cultiver en fait la pensée juste qu'il faut cultiver au moment de la mort. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire que prendre conscience de la mort, hein? Que prendre conscience du moment de la mort? Et la quatrième partie, c'est comment méditer sur la mort et l'impermanence. Comment faire? Donc, on va prendre le premier point. Quels sont les avantages de méditer sur la mort et sur l'impermanence. Alors les avantages, je crois que vous l'avez dans votre, hein, ouais, vous avez sur votre truc là, sur votre papier. Moi, je l'ai pas, donc je vais le prendre là-dessus. Donc le premier avantage, le fait de pouvoir méditer, le fait de méditer sur la mort et sur l'impermanence, va vous inciter tout de suite à pratiquer le dharma. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne vous souvenez pas à chaque instant, hein, de la mort, si vous n'avez pas cette conscience de la mort, vous allez oublier de pratiquer. Ou si, deuxième point, si vous vous en rappelez de pratiquer, vous n'allez pas pratiquer maintenant. Vous allez dire, bon, d'accord, je vais pratiquer plus tard. Vous allez différer en fait la pratique. Si malgré cela, vous arrivez à vous souvenir qu'il faut pratiquer le dharma et vous vous rappelez donc qu'il faut le faire tout de suite, votre pratique va manquer de pureté. Elle ne va pas être pure. Parce qu'en fait, votre pratique va être mélangée avec ce qu'on appelle les dharmas mondains. Donc, ce qu'on appelle les dharmas mondains, en fait, c'est lié à deux facteurs, à deux perturbations mentales principales, qui sont l'attachement et la colère. L'attachement fait que donc c'est les deux principaux obstacles à la pratique, hein, l'attachement et la colère et l'aversion. Hein. Et on les retrouve donc ces deux perturbations mentales dans ce qu'on appelle les huit dharmas mondains. Dharmas mondains, en fait, parce que ce sont des préoccupations mondaines. C'est-à-dire que même si on essaye de pratiquer le dharma, on va, comme on est influencé par l'attachement et par la colère, notre pratique ne va pas être pure. C'est-à-dire que l'on va essayer de trouver. Elles vont être teintées par des préoccupations mondaines. Alors, les huit dharmas mondains, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est pas par groupe de deux. Hein. Donc, le premier donc, qui est lié à l'attachement, c'est c'est rechercher ou être satisfait ou être heureux quand on obtient des possessions matérielles. Et au contraire, être insatisfait ou être en colère quand on perd certaines choses matérielles, hein, quand on perd ses possessions, hein, certaines de ses possessions matérielles. Ça, c'est le premier, donc c'est les deux premiers dharmas mondains. Le premier lié à l'attachement, l'attachement à vouloir, à gagner, et le deuxième est lié à l'aversion, c'est-à-dire l'aversion de perdre quelque chose. Ensuite, le deuxième, c'est être attaché aux paroles agréables, hein, et être mécontent de chaque fois que l'on entend ou que l'on nous dit des paroles désagréables. Le troisième, donc ça c'est 3 et 4. Ensuite 5 et 6, c'est l'attachement à l'image de soi, à projeter ou à avoir une bonne image de soi, à cultiver une image de soi comment dire, un peu exagérée, hein, dans le bon sens, enfin dans le bon sens, dans un sens justement où positif, hein, où que les gens disent toujours du bien de nous. Et l'autre, c'est la crainte ou la peur ou le fait de redouter d'avoir une image mentale un peu plus négative, que l'on dise du mal de nous, en fait, d'avoir mauvaise réputation. Donc le premier est lié à la bonne réputation et le deuxième à la mauvaise réputation. Donc ça, c'est les dharmas mondains 6 et 7. Non, 5 et 6. Et 7 et 8, c'est le fait d'être attaché à des expériences agréables et de craindre, de redouter tout ce qui est désagréable. C'est-à-dire, dès qu'on a une expérience désagréable, de perdre son calme, de perdre sa patience, et de tout de suite se mettre en colère. Donc, voilà, c'est ça donc qu'on appelle les huit dharmas mondains. Et c'est ce qui amène le manque de pureté dans la pratique. C'est-à-dire que même si on pratique le dharma, on reste attaché à ces dharmas mondains. Le quatrième point, c'est que même si on est déterminé, si on pratique le dharma, et qu'on essaye de le pratiquer de manière assez pure, il se peut que notre détermination ne soit pas très forte. Et que finalement, si on n'a pas suffisamment pensé à la mort, on va finir par laisser tomber, hein, complètement, l'arme, en faisant autre chose, par exemple. Le cinquième point, on continue à créer des actions négatives et qui nous empêchent d'atteindre la libération. Si on n'a pas suffisamment méditer sur la mort et l'impermanence, c'est-à-dire on ne va pas essayer de contrecarrer les perturbations mentales qui nous agitent. On va continuer à les laisser proliférer un peu dans notre esprit. Au contraire, le fait de vraiment méditer sur la mort de manière constante va faire que on va essayer de les éliminer, ces perturbations mentales, comme enfin, toutes les perturbations mentales qui apparaissent dans notre esprit, l'attachement, la jalousie, la colère, l'orgueil et tout ça. Et c'est tout l'intérêt justement de la méditation sur la mort, c'est-à-dire de ne plus cultiver ces perturbations mentales. Parce que si on les laisse, pourquoi on devient inapte à la libération? Parce que si on laisse proliférer ces perturbations mentales, eh bien ça crée la cause pour tourner sans cesse dans le samsara. Hein, puisque je vous rappelle que la libération, c'est justement le fait d'être libéré des perturbations mentales. Donc si on les laisse proliférer, eh bien y a pas de libération possible. Et le dernier désavantage, donc, de ne pas avoir conscience, donc de l'impermanence et de la mort, c'est que au moment de la mort, on dit qu'on ressent d'intenses regrets, d'immenses regrets justement, de ne pas avoir suffisamment pratiqué le dharma et d'avoir gaspillé un peu, d'avoir gaspillé sa précieuse renaissance humaine, d'être passé à côté de tout ce qu'on avait de bien et d'avoir gaspillé nos chances de libération. Et donc c'est ça qu'on veut éviter. Donc c'est pour ça que l'enseignement insiste sur le fait de méditer sur l'impermanence et sur la mort. Donc la pensée que l'on doit cultiver, donc c'est pas une pensée où l'on est. Quand on parle de cultiver donc la pensée de l'impermanence et de la mort, ça ne veut pas dire avoir, comme on le disait ce matin, je crois, avoir peur, hein, du moment de la mort en tant que tel, mais des conséquences futures si on n'a pas suffisamment pratiqué, si on n'a pas suffisamment développé de qualités vertueuses, eh bien de ne pas s'assurer un avenir, des renaissances futures favorables. Donc je vous rappelle que dans ce contexte de la méditation, là, la motivation principale de ce pratiquant, c'est d'avoir une bonne vie future, hein, une bonne réincarnation. Et la meilleure manière d'avoir une bonne réincarnation, c'est justement d'avoir cultivé des tendances positives dans son esprit. Puis qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? On dit que c'est la dernière pensée qui propulse, hein, dans les vies futures. Et cette pensée, cette dernière pensée, en fait, plus on aura cultivé des tendances positives qui sont en nous, plus on a de chances que la dernière pensée qui se manifeste, ça soit une pensée positive. Si au contraire, on a laissé de côté tous les facteurs positifs, tous les facteurs vertueux, et qu'on s'est laissé aller à toutes les tendances négatives qui sont en nous, il y a beaucoup plus de chances que la dernière pensée soit une pensée négative. Donc une pensée positive va amener des renaissances vertueuses, des renaissances favorables, et une pensée négative va amener des conséquences défavorables, des conséquences négatives. Et donc cette pensée du moment de la mort, c'est la pensée qui détermine la vie future. Pourquoi est-ce que c'est cette dernière pensée? C'est parce qu'au moment où tous désagrègent, hein, toutes les consciences grossières dont on vient de parler se dissolvent, que ça devient de plus en plus subtil dans notre esprit, hein, que les consciences grossières se dissolvent, les consciences moins grossières après se dissolvent, et la conscience, les consciences les plus subtiles se dissolvent. La dernière pensée qui va rester, ça va être la seule chose en fait qui va rester de toutes ces conceptions. Et c'est ça qui va nous projeter dans une vie, dans la vie suivante, parce que c'est à ça qu'on va se raccrocher le plus. C'est cette dernière pensée à laquelle on va. Pourquoi on va se raccrocher à cette pensée? Parce que quand tout s'évanouit, quand tout se dissout, il reste. On a l'impression de tomber dans un état de néant. Et le vide, c'est ce qu'on craint le plus. On a cette peur du vide. Donc la dernière pensée, c'est cette bouée. Enfin, c'est une illusion, là, encore. C'est comme si vous étiez dans l'océan, et puis dans l'océan, vous êtes en train de vous noyer, et à quoi vous voyez une brindille qui flotte sur l'océan, et vous vous accrochez à la brindille. Ça ne va pas vous servir à grand-chose. Ben ça, c'est pareil. Au moment de la mort, c'est un peu la même chose. La dernière pensée qui passe, c'est comme cette brindille qui est là, et à laquelle vous vous accrochez désespérément, parce que c'est la seule chose plus ou moins solide qui passe dans votre esprit. Donc si cette chose, si cette brindille est positive, par chance, eh bien, elle va vous emmener vers quelque chose de favorable. Si au contraire, c'est une illusion, même si c'est qu'une illusion positive, le fait d'y croire encore, parce qu'on est encore lié à une croyance très subtile au bien et au mal, en fait, eh bien, elle va vous emmener vers un état positif. Parce que cette pensée, c'est votre fil conducteur pour la vie suivante, puisque tout n'est que conscience, instant de conscience qui donne naissance à un autre instant de conscience. Donc le dernier instant de conscience va produire l'instant de conscience suivant. Et quand vous n'avez plus de corps, parce que votre corps, vous l'avez laissé tomber au moment de la mort, les éléments grossiers, c'est évident, le corps n'est plus, il n'y a plus que la conscience qui est là, et cette dernière pensée va être une pensée de vouloir retrouver désespérément un nouveau corps. Et quel corps vous allez retrouver? Eh bien, vous allez retrouver un corps qui correspond à cette pensée. J'essaie de vous prouver la réincarnation par déduction logique, vous montrer comment c'est possible de croire un peu à la réincarnation. C'est que cette pensée, puisque vous n'avez plus de corps, qu'il ne vous reste plus qu'une brindille de pensée, vous allez vouloir la matérialiser. Et comment vous allez essayer? Comment est-ce qu'on va essayer de la matérialiser? Eh bien, en recherchant désespérément le corps qui correspond à cette pensée. Et alors, donc, tout logiquement, enfin, absolument logiquement, si c'est une pensée d'agressivité, mais on va prendre un exemple extrême, une très grosse agressivité à ce moment-là qui apparaît dans votre esprit, vous allez trouver un corps qui correspond à cette agressivité. Peut-être que vous allez vous réincarner en lion ou en tigre, j'en sais rien en quoi. Mais vous allez essayer de trouver vous allez instinctivement, votre esprit, il va vous projeter dans un corps qui correspond le plus à cette pensée. Donc si c'est des pensées vertueuses, il y a des grandes chances que vous renaîtriez dans un état humain qui favorise ou vous allez pouvoir encore entretenir ces pensées vertueuses, même si vous n'êtes pas complètement libéré du samsara, vous restez quand même. C'est un état où il est possible de continuer d'avancer dans sa pratique spirituelle et à progresser. Au contraire, si c'est des pensées négatives, donc là j'ai dit par exemple de colère, si c'est d'avidité par exemple, de l'avidité, vous avez, parce que de votre vivant vous avez été quelqu'un, je ne sais pas moi, de très pingre, qui n'a aucune générosité, tout ça. Et les dernières pensées qui se manifestent, c'était de vouloir garder vos dernières richesses, d'avoir peur de perdre tous vos comptes en banque et tout ça, que vous pensez que votre famille est en train de de dilapider ce que vous avez économisé chaque instant de votre vie, ce que vous avez mis de côté pour vous et que vous, dont vous n'avez pas pu apprécier parce que vous êtes mort avant, et que cette pensée vous obsède au moment de la mort. Hein. Et vous pouvez très très bien, on peut très bien avoir ce genre de pensée, si c'est comme ça qu'on a vécu. Hein. C'est pour ça qu'entre la mort et la vie, il n'y a pas grande différence. Hein. On meurt un peu comme on a vécu. Donc si on a cultivé des pensées d'avidité, d'avarice, y a des grandes chances que ce soit ça qui se manifeste. Et si cette pensée d'avarice se manifeste, eh bien, dans quoi on va en être? Eh bien, voilà, on prend les six royaumes d'existence, les six mondes d'existence. Hein, donc au lieu, on va de renaître dans un état d'extrême pauvreté. Peut-être sous une forme humaine, peut-être sous forme de fourmi. Il veut toujours avoir des choses à ramasser. Ou comme disent les enseignements, sous la forme d'un être famélique, ce qu'on appelle les prêtas, qui ne trouvent pas un seul aliment pendant toute leur vie, et leur vie, Dieu sait si elle dure longtemps, qui n'obtiennent jamais rien. Qui sont toujours en quête de nourriture, en quête de choses, et leur corps est fait de telle manière qu'ils sont complètement insatisfaits. Parce que, justement, pourquoi ils sont complètement insatisfaits? Parce que la dernière pensée était un instant de conscience d'insatisfaction qui, dans le moment suivant, crée encore une conscience d'insatisfaction. Donc voilà la pensée qu'il faut avoir. Voilà en quoi consiste la pensée de la peur du moment de la mort. Ce n'est pas avoir peur de la mort en tant que telle, mais c'est avoir peur des pensées non vertueuses qui, au moment de la mort, pourraient nous amener des expériences dans l'état intermédiaire et dans la vie suivante, conditionner une vie qui ne soit pas une vie favorable, mais une vie animale ou infernale, on va dire, si on reprend la terminologie bouddhiste, ou animale, du fait de cette dernière pensée. Donc l'enseignement bouddhiste, c'est ça dont il faut avoir peur. Hein. Pas avoir peur du moment de la mort. Le moment de la mort, on ne peut rien y faire. La mort, on ne peut rien y faire. Hein. On ne peut pas l'éviter. C'est inévitable. On y va tous. Tout droit. Donc ça, c'est pas la peine d'en avoir peur. Hein. Ce dont il faut avoir peur, c'est justement de ce qui va se passer après la mort. Donc c'est ça qu'il faut cultiver dans ce point-là. C'est justement cultiver cette tendance à développer les pensées positives pour qu'au moment de la mort, ça soit ça qui nous projette dans la vie future. Donc l'intérêt de la méditation sur la mort, l'impermanence, c'est de mourir complètement ou de tendre, disons, de cultiver le plus de pensées positives pour qu'au moment de la mort, on soit projeté dans un état favorable et qu'on puisse continuer notre pratique dans un état encore plus favorable. Je vous rappelle, c'est ça que vise ce pratiquant. C'est ça. Et finalement, si on est un pratiquant, c'est un peu ça qu'on cherche, à développer les aspects beaucoup plus positifs de notre esprit, sachant que ça aura un effet immédiat et ça aura aussi un effet à long terme dans les vies futures. Ouais.
Vous avez parlé beaucoup de la dernière pensée, la dernière pensée, la dernière pensée. Et vous avez parlé aussi de se préparer à mourir. Donc, j'imagine qu'on ne va pas attendre la dernière pensée, qu'elle soit positive, pour espérer une réincarnation positive.
Non, c'est à chaque instant, justement, qu'on doit cultiver des pensées positives pour que ces pensées positives nous amènent à développer des états positifs qui se succèdent, qui s'enchaînent les uns aux autres. À chaque instant, c'est sûr. C'est, faut pas attendre le moment de la mort, non, la dernière pensée. Oui.
Oui. Oui. La vie du Bouddha nous a été relatée, mais je pense maintenant comment il est mort le Bouddha. On a des témoignages sur la façon dont il a quitté ce monde.
Il s'est allongé. Il a donné il a dit à ses disciples, regardez, vous allez voir le Bouddha mourir, qui disparaît, qui vous quitte. C'était un grand choc pour les bouddhistes. Et sa conscience est partie. Mais bouddhiste. Pour ses disciples qui étaient présents, donc, on peut voir donc, son corps devenir inerte, hein, je pense, et sa conscience partir. Ouais. Il est mort de mort naturelle, quoi, on va dire. J'ai pas trop de documents. Je connais pas trop de documents qui expliquent vraiment comment le Bouddha est mort, comment il est. Donc je peux pas vraiment répondre. Hein. J'ai pas beaucoup de détails sur ce moment-là. En tout cas, il a montré, quoi. Il a manifesté l'impermanence, on dit. Hein. Bon, quand on parle du parinirvana, donc on parle de cette manifestation de l'impermanence. Manifester la mort.
Oui, une deuxième chose, on a des témoignages de sages qui avaient des réalisations et qui sont partis dans la joie, vraiment dans la joie.
Ben, c'est ça. Hein. C'est le but, justement, de la méditation sur la mort, c'est de nous amener à mourir dans un état de joie. Ça, on dit que c'est l'aboutissement d'une vie de pratique. Les meilleurs pratiquants, au moment de la mort, partent justement avec joie, hein, parce que ils ont cultivé le plus possible donc ces états positifs, et donc au moment de la mort, c'est ça qui se manifeste. Et quand ce sont des états positifs qui se manifestent, en général, ça amène de la joie. On dit que au moins le pratiquant, disons, moindre, s'il ne part pas dans un état de joie, part sans peur. Hein, sans peur. Et il n'a aucune crainte à ce moment-là. Parce qu'il est confiant dans les pensées qu'il a cultivées, dans ses états vertueux. Et pourquoi, je finis, pourquoi la joie, en fait parce que pour certains pratiquants, justement, la mort est un état attendu qu'ils ont cultivé de leur vivant. Ils se sont entraînés, justement, à produire dans leur méditation les différentes dissolutions qui ont lieu au moment de la mort. Hein, à les imaginer. Seulement, tant qu'ils sont pas morts, tant qu'ils restent vivants, ça reste dans l'imaginaire. Quoi. Ça peut devenir de plus en plus subtil, mais ça reste à un niveau imaginaire. Alors qu'au moment de la mort, ça se produit vraiment. Et là, ils ont l'occasion, en fait, de vraiment goûter à la véritable expérience. Donc ça peut leur procurer une grande joie à ce moment-là, puisque tout ce qu'ils ont pratiqué de leur vivant, en fait, eh bien, ça se concrétise. Au moment de la mort. Et c'est plus de l'imaginaire à ce moment-là. C'est vraiment les dissolutions proprement dites. Et ils savent à quoi s'attendre, puisque dans leur méditation, ils sont passés par toutes ces étapes, mais sans les créer, mais disons en les imaginant. Donc ils savent à quoi s'attendre. Donc à ce moment-là, quand la mort se produit, ben, ils disent voilà, on en parlera peut-être plus demain, justement, de ça, des différentes dissolutions hein, qui ont les différents éléments. Qu'est-ce qui se dissout, les agrégats, les éléments, tout ça. Donc, il a travaillé sur le processus. Hein. Il est expert, même, dans le processus, mais d'une manière pas directe, justement, pas par perception directe, par perception déductive. Et là où ça se produit vraiment, et ben là, il en a la perception directe. Et là, c'est les expériences, il les a vraiment. Et c'est comme ça qu'il peut se libérer dans cette vie.
Oui, l'obstacle principal, les obstacles, c'est nos attachements de tout ordre. Ah,
Exactement. L'obstacle principal du moment de la mort, c'est l'attachement. C'est sûr. Et la méditation sur l'impermanence que l'on fait, que l'on doit cultiver, qu'on va faire tout à l'heure, sur les 9 points. Hein, c'est justement pour nous apprendre à nous détacher. Ça amène comme effet de cultiver le détachement. Qui sera salutaire au moment de la mort. Oui.
Vous avez dit tout à l'heure que le Bouddha avait cherché à se libérer du cycle de samsara, donc du cycle des réincarnations. Il a voué toute sa vie à couper cette course infernale. Et est-ce qu'on sait s'il a réussi ? Puisque dans le bouddhisme, il y a beaucoup de moines qui sont des réincarnations. Donc eux, ils vouent leur vie à perpétuer par leur réincarnation et par, la maîtrise de cette réincarnation. Et par contre, le Bouddha, lui, qui a cherché à se délivrer, est-ce qu'on a les preuves qu'il a réussi à ne plus jamais se réincarner et à se libérer totalement de ce cycle ? Et si on a les moyens vraiment de faire la même chose que lui ?
Ben, tout l'enseignement est basé là-dessus, un petit peu, de nous montrer justement quelles sont les différentes étapes dans la libération, comment se libérer. Donc, si son enseignement enseigne ça, c'est que lui est sans doute arrivé à le faire. Sinon, il n'en aurait pas la possibilité de l'enseigner. Après, bien sûr, on peut ne pas y croire. Hein. Bon, après, bon, bien sûr. Mais tous les enseignements du Bouddha ont pour but de nous amener à l'éveil, de nous amener à son état, à l'état de Bouddha. Hein. Donc voilà.
Il renaît alors. Pourquoi les moines bouddhistes y renaissent ? Si son enseignement, c'est de couper et de se libérer de ce cycle de renaissance, pourquoi, dans le bouddhisme, les moines renaissent en sachant très bien qui ils sont et en ayant les souvenirs de leur expérience passée, puisque l'objectif, c'est d'arrêter de se réincarner.
Oui. Donc, l'objectif, c'est pas d'arrêter de se réincarner. L'objectif qu'on vise dans la libération, c'est d'arrêter de se réincarner sous l'impulsion du karma et des perturbations mentales. Donc la libération, c'est être libéré des perturbations mentales et du karma. Mais si on a cultivé la pensée d'éveil de vouloir libérer les autres, on va se réincarner pour libérer les autres. Mais on ne se réincarnera pas parce qu'on est poussé à le faire par nos perturbations mentales et par le karma, mais par choix personnel, pour venir sauver les autres. Et c'est ce qu'on appelle un bodhisattva. Donc il y a deux niveaux à ne pas confondre. Il y a le niveau de la libération, qui serait une libération simplement personnelle pour être bien dans le nirvana. Et il y a l'éveil du Bouddha qui revient pour sauver les autres, comme un bodhisattva à ce moment-là. Mais il n'est plus cette réincarnation, elle n'est plus dictée par les passions, par les perturbations mentales, par la colère, par la jalousie. Et elle est dictée par son amour, sa compassion altruiste pour revenir dans le samsara. C'est une perspective complètement différente. Pascal, là. Dernière question, on fera une petite pause après.
Merci.
Et après, ouais.
Comment se défaire des préoccupations mondaines concrètement, c'est-à-dire quand vous disiez tout à l'heure, par exemple, on passe beaucoup de temps à s'occuper de ses enfants ou autre, il faut arriver à... Bon, déjà, je trouve que s'occuper des enfants, il me semble que c'est, par exemple, une pratique.
C'est une
aussi.
Pratique, oui, bien sûr.
Mais je veux dire...
Ça, c'est sûr.
Le fait de
se... Tout le monde est d'accord.
Voilà, donc là, c'est presque pour pratiquer. Bon, si on... Mais alors, ce que après... je veux dire, c'est se défaire concrètement
mentalement.
Quand on doit chercher un travail ou faire vivre une famille, ou etc. Si on se détache de ça, comment on fait concrètement pour renoncer à cette vie, dans cette vie ? Enfin, je ne sais pas.
J'ai pas la réponse. Si j'avais la réponse, moi-même...
Est-ce qu'il y a des exemples formidable. De comportements, on va dire, pour pouvoir y arriver ?
Des exemples de comportements ?
Oui, concrets, humains.
Ben, c'est ça, c'est la mise en application mentale de la voie. C'est-à-dire, de toute façon, on est, je ne sais pas, vous en êtes, mais moi, en tout cas, si je suis influent, on a pris renaissance, on a un corps humain qui est influencé par les perturbations mentales et par le karma. Donc, on a des contraintes. on n'est pas libéré. On doit avoir un travail, on a une famille, on a des enfants, on a choisi de vivre comme ça, ou on l'a choisi, enfin, entre guillemets. Mais en tout cas, on vit comme ça. Et ça, ce sont... est-ce qu'on l'a choisi, est-ce qu'on l'a pas choisi ? C'est notre karma qui a fait qu'on a rencontré telle personne, on s'est marié avec, on a fait des enfants avec lui ou avec elle, et voilà, et tout s'est mis en place, il a fallu qu'on trouve un travail. C'est ce qu'on appelle le samsara, mais c'est pas quelque chose d'extérieur à nous, c'est nous qui l'avons créé. Donc on est là-dedans. Il faut se débrouiller maintenant là-dedans. On l'a créé, on est dedans. Justement, il faut s'en libérer maintenant de ça. Et se libérer de ça, ça ne veut pas dire envoyer tout balader. Mari, femme, enfant, et puis se retrouver tout seul dans une grotte. Ça ne durera pas longtemps. Au bout de 3 jours, vous allez...
Oui, mais on prend toujours ces 2 extrêmes. Mais est-ce que justement, il y a quelque chose de médian ?
Oui, ce qui est de médian, c'est regarder son esprit. C'est ça la pratique la plus essentielle et la plus importante du bouddhisme, c'est regarder ces perturbations mentales. Vers quoi notre esprit nous emmène ? Et au moment de la mort, c'est pareil. Nous, on s'agrippe à n'importe quelle brindille, on réagit par rapport à nos émotions, on se met en colère pour ceci, cela. Résister au dharma mondain aussi, ça veut dire ne pas forcer, ça veut dire faire attention, c'est-à-dire prendre du recul par rapport. Si nos tendances karmiques sont liées à la colère, par exemple, on a beaucoup de colère, tout ça, et bien une manière de résister à ça, de prendre une distance, de voir les effets néfastes de la colère. Quand on se met en colère, qu'est-ce qui se passe ? On est mal à l'intérieur, ça crée une mauvaise harmonie dans la famille, ça, c'est pas bon. Bon, c'est ça, c'est analyser sans arrêt son esprit. Et l'attitude médiane, finalement, que l'on peut avoir, c'est tout dans l'esprit, tout ce qui se passe. C'est que dans l'esprit. Et au moment de la mort, c'est aussi ça. C'est encore l'esprit qui est déterminant. Oui ? On peut faire une pause ou vous voulez ? Ouais ? D'accord, bien, on continuera sur cette lancée tout à l'heure. Nous avons vu les inconvénients donc qu'il y a donc à ne pas avoir conscience du moment de la mort. Conscience de la mort. Donc cette méditation donc sur la pleine conscience de la mort a comme avantage donc que notre pratique du dharma devient très pure. Le fait de se rappeler qu'on va mourir amène de la pureté dans notre pratique et fait en sorte que notre pratique ne soit pas souillée par les 8 dharmas mondains, les 8 préoccupations mondaines. Tout de suite, ça donne une pureté à la pratique du dharma. C'est pour ça que les maîtres spirituels, tous nos maîtres, nous recommandent de méditer tous les jours sur la mort, justement, pour amener cette pureté à la pratique. Notre deuxième avantage, c'est que toutes nos actions qui sont en accord avec le dharma deviennent très puissantes, très efficaces. Et là, notre motivation devient beaucoup plus juste dès que l'on a cette prise de conscience de la mort. Cette pleine conscience. On parle de pleine conscience de la mort. Ce n'est pas la simple pleine conscience comme on peut trouver enseignée par certains coachs, mais la pleine conscience de la mort, c'est-à-dire qu'on peut mourir à n'importe quel moment. Donc nos actions deviennent très efficaces. Je pense que ça répond un petit peu à la question tout à l'heure que tu me posais. Ce rappel de la mort, cette prise de conscience de la mort, cette pleine conscience de la mort est salutaire au début de la pratique du dharma, parce que c'est ça qui va nous inciter à pratiquer. C'est ça qui va nous tourner vers la pratique. Quel est le début de la pratique ? C'est avec le karma, observer la loi du karma, réfléchir sur la loi du karma, prendre refuge dans le Bouddha, le dharma et la sangha. Ensuite, au milieu de notre pratique, c'est ça qui nous encourage à persévérer dans la pratique. puisque on sait qu'on va mourir à un moment donné. Et elle est salutaire à la fin de la pratique, c'est-à-dire qu'on veut absolument réaliser l'éveil, la libération, hein, qui est le terme de la pratique. Et donc, au moment, donc cette pensée de la mort donc, évite les dharmas mondains. Et sixième point, à l'heure de la mort, vous partirez avec satisfaction, sachant que vous avez vécu une vie pleine de sens, que votre vie a été vraiment... Vous avez donné un sens à votre vie. Donc une grande satisfaction, d'où joie et absence de peur. Donc pour méditer sur la mort, il y a plusieurs manières. Il y a une manière en quatre points ou en neuf points. Donc la manière en quatre points, elle est enseignée par Gampopa dans son précieux ornement de la libération. Il donne les quatre points pour méditer sur la mort. Donc le premier point, donc le premier point, c'est la mort elle-même, à proprement dite. Le deuxième, c'est les caractéristiques de la mort. Le troisième, c'est l'épuisement de la vie. Et le quatrième, c'est la séparation. Donc on va juste les voir un peu brièvement pour vous en ayez une petite expérience. Donc c'est très simple. Donc pour méditer sur la mort, vous pensez simplement, vous concentrez sur la respiration, sur votre souffle. Vous faites comme on l'a fait tout à l'heure, un peu plus élaboré. Et vous pensez, donc vous pensez à vous, qui vous êtes. Hein, pensez à la personne que vous êtes. Essayez de faire venir mentalement à l'esprit la personne que vous pensez être, que vous croyez être, la personne à laquelle vous vous identifiez en ce moment. Essayez de la percevoir. Et vous vous dites, donc je suis en vie actuellement, mais je ne vais pas rester longtemps dans ce monde. Ma vie, ma durée de vie aura forcément un terme et il faudra tôt ou tard que je passe dans la vie prochaine. Voilà. Contemplez, réfléchissez à ça. Donc c'est le seul point de réflexion, réfléchir sur le fait que l'on ne va pas rester en vie longtemps. Qu'on en a maximum, on ne sait pas, pour quelques années au maximum, mais ça peut très bien s'arrêter dans quelques heures, quelques minutes, et que fatalement, ça ne va pas s'arrêter là. Vous n'allez pas tomber dans le néant, tout ne va pas s'arrêter, mais que vous allez prendre un autre corps, une autre forme, et avoir une autre vie. Essayez de regarder ça, de voir ce que ça vous fait de penser à ça.